Bienvenue à l'expérience audio Simplement plein air. Cette expérience vous est rendue possible grâce à la participation des partenaires suivants.
Tout le monde aime le camping. Le réveil matin remplacé par le chant des oiseaux. Les après-midi au bout du quai, les pieds dans l'eau. Les soirées partagées autour du feu. Les maringouins, le poêle au propane qui démarre pas. La tente qui fuit, le matelas qui dégonfle. L'eau trop froide. OK, on peut rien faire pour l'eau trop froide. Mais pour le reste, il y a ProNature, Rouyn Noranda.
Les leaders pour les produits de saline, urine, leurre et autres accessoires, les excellents produits Buck Hunter. Venez visiter notre tout nouveau site au www.buck-hunter.ca. Vous verrez les résultats à utiliser nos produits.
Action Kia de Rouyn-Noranda pour un choix de véhicule neuf Kia adapté à vos besoins, mais aussi un véhicule d'occasion fiable, sécuritaire et certifié. Venez rencontrer notre équipe qui saura vous conseiller le bon véhicule, comme le Kia Sorento, offert avec traction avant ou intégrale. C'est la qualité à un prix incomparable pour ceux qui aiment en avoir plus pour leur argent. De plus, notre expert en crédit vous accompagnera pour faire la meilleure transaction possible. Action Kia, meilleure garantie et meilleur service au meilleur prix.
Que ce soit pour vos animaux de compagnie ou vos animaux de ferme, la compétence porte un nom. Monsieur Bouffe, 25 Avenue Chaudière à Rouyn-Noranda, au 819-797-2564, point à la ligne.
On s'imagine pas qu'il y a autant de familles qui mangent pas à leur faim au Québec. Cette année, j'ai décidé de donner de la viande de gibier pour venir en aide à des familles de ma région. C'est pas compliqué. Je dis à mon boucher la quantité que je veux donner et un organisme passe pour aller distribuer la viande aux familles dans le besoin. Chasseurs, soyez donc généreux.
Le mercredi balado-diffusion chez Simplement plein air, on y retrouve de tout pour tous, sauf la chasse, sauf la pêche, car c'est le lundi pour la pêche et le vendredi pour la chasse. Simplement plein air, de la balado-diffusion à son meilleur. Depuis une vingtaine d'années, les automnes se ressemblent pour mon prochain chroniqueur. Hey! De la fin août au début octobre, le grand barbu arpente ses parcelles sur des centaines de kilomètres à la recherche du précieux champignon. Et puis là, quand on parle du précieux champignon, je vais vous le dévoiler bientôt. À genoux dans le lichen, il tapisse les sols sablonneux de peuplements de pins gris matures. Il observe, tapote le sol, il recherche la moindre craque qui laisserait deviner l'éclosion précieuse du fameux Matsutake. Et oui, vous l'aurez reconnu. Et pour les nouveaux, ben je vous le présente, monsieur Sylvain Paquin. Salut Sylvain.
Salut Guy.
Hey, le fameux Matsutake et tout ce qui entoure la récolte du Matsutake, on le sait que, écoute, des fois, la part du gain fait que les gens... S'imagine toutes sortes de choses avec ce beau champignon qui est tellement prisé chez les restaurateurs. Mais là, faut s'en dire, j'aimerais que tu m'expliques un peu, qu'est-ce que le Matsutake? On sait que c'est un champignon, mais aussi comment le récolter. Et on le, tu sais, il y a une éthique quand même qu'il faut observer. On le récolte pas parce que si on détruit son habitat, c'est fait là.
Ah, c'est fait. Au Japon, écoute, t'as le problème qu'ils ont eu depuis des millénaires, parce que c'est un champignon qui date de millénaires, c'est qu'ils ramassaient avec le râteau. Fait que ramasser les champignons avec le râteau, érosion, racine sèche, parce que ce champignon-là vit en symbiose avec le pin. Le pin, c'est vraiment un partenaire avec le mycélium de Matsutake, qu'au niveau japonais, le rond de sorcière, ils vont appeler ça un shiro. Ce shiro-là, pendant l'été, va défaire les éléments et va nourrir les pins environnants. En juillet, les écarts de température, les journées rapetissent, cet arbre-là fait comme « Oh, l'automne s'en vient! » Commence à envoyer sa sève élaborée aux racines et Le mycélium qui est un peu qui a fini son travail de partenaire avec le pain, reçoit cette sève-là et lui, ce qu'il veut, c'est produire des fruits pour se reproduire. Donc, ce qu'il a de besoin, c'est que le champignon sorte, se déploie, se part. Après ça, le mycélium fait un genre de grosse mousse blanche, comme un genre de mousse à barbe, mousse pour la barbe. Moi, je connais pas ça, là, avec la
barbe ouais.
que j'ai. Ça fait des années que j'ai pas vu ça. Mais va chercher tous ces éléments-là, va chercher le champignon qui est en décomposition et un champignon matsutake qui se passe, ça prend 3 à 4 ans avant d'avoir un nouveau fruit. Ce qui arrive, c'est qu'il va pousser dans des parcelles de mousse qui va le protéger de la chaleur, mais les gens vont cueillir en après-midi dans une mousse qui est hyper sec, vont flipper la mousse sur, je sais pas, moi, peut-être 3 pieds par 2 pieds parce qu'ils ont vu un petit champignon, parce qu'ils veulent avoir le tout petit. Je veux dire, tout est une question de formation, d'éthique et d'éducation, mais la plupart des gens, ben, ce qu'ils veulent, c'est des champignons. Ils veulent des champignons. Ils vont arriver dans des parcelles, dans des petits monticules de sable avec un peu de lichen. Ils vont tout arracher. Ils laissent ça là, bouge pas les trous. La micro-racine qui se trouve à nourrir le mycélium, ben, elle sèche. Ou ils vont tout prendre. Et, fait que si tu prends tout, tu amènes ça à la maison, tes gros champignons en début de saison qui sont piqués, donc qui sont véreux, ben, il pourra pas se parer, mais tu vas le foutre à la poubelle. Fait que tout est une question et c'est tout le temps la problématique d'année en année en année parce que t'as les médias qui te parlent de, ça date pas d'aujourd'hui, là. Si on recule, là, une vingtaine d'années, le matsutake, dans le nord du Québec, 1 000 $ le kilo, oui, 1 000 $ le kilo, peut-être, à l'encan au Japon, mais on parle de champignons de 8 grammes. Pourquoi?
Ouais.
Parce que le japonais va le faire bouillir et va boire le jus parce que c'est anti-gros, anti-cancer. Mais tu sais, tu peux pas rentrer avec une pelle et un pic puis ramasser toutes les parcelles de matsutake pour fournir un kilo de petits champignons de 8 grammes. T'sais, c'est utopique de penser ça. Sauf que l'industrie du champignon sauvage au Québec n'a pas les moyens de se payer le matsutake au vrai prix qui peut être vendu de la manière internationale comme une bourse. Donc, vont envoyer ce que moi j'appelle des mercenaires. Qui débarquent ici, qui se font des campements, qui cueillent de nuit et qu'ils vont tout ramasser, puis ils laissent des poubelles, puis effectivement, flippent la mousse. Mais ça, c'est plus ça change, plus c'est pareil. Puis d'année en année, ben, t'as des gens, t'as beau leur expliquer, puis oui, 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 on fait pas ça, oui, 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 ah non, non, moi je fais pas ça, Sylvain. Sauf que quand tu les rencontres en forêt, tu vois bien ce qu'ils font. Mais t'en as quand même qu'ils font de manière intelligente, durable. Et je vais rappeler que Chisasibi et Wiminji, les deux communautés cries, travaillent de concert depuis 17 ans. On a fait l'inventaire avec l'Université de Toronto. On a développé l'imagerie spectrale infrarouge qui donne des parcelles de couleurs qu'on a marché. On met 25 000 bâtons de popsicle par année. L'année dernière, on reçut le consul général du Japon à Montréal pour travailler, pour développer une industrie respectueuse de l'environnement. Et comme je dis tout le temps, le but, c'est de donner des sous aux cueilleurs, respecter et protéger cet environnement-là. Mais tu sais, d'année en année, c'est tout le temps le bordel.
Oui, absolument. Puis on le voit aussi quand il y a des feux de forêt, une couple d'années après, ben, on voit les fameux mercenaires se diriger pour aller faire la cueillette, je devrais dire, de morilles de feu. La morille de feu, naturellement, qui est abondante à ce moment-là et qui est très prisée aussi des restaurateurs. Donc, c'est ça, tu sais, ils passent et puis ils arrachent tout. Mais dans le cas de la morille de feu, c'est pas si pire. Mais le matsutake, c'est un environnement qui est plus fragile. Donc, c'est un environnement qu'il faut respecter. Puis, à la limite, moi, je suggérerais, puis je pense que t'émanes de la même façon, c'est qu'il faudrait que ces personnes-là aient une formation avant d'être sur le terrain. Et puis, vraiment encadrées.
Yeah, effectivement, Guy, une formation, et tu vois, avec Chisasibi Wiminji, tous les intervenants, ce qu'on veut faire, c'est une carte de cueilleur. Carte de cueilleur pour ta consommation personnelle. Tu consommes ton champignon, coupé en deux, ça n'a plus de valeur sur le marché. Cueilleur commercial, un passeport. Un passeport qui te dit où tu as le droit de cueillir, où est-ce que tu as le listing de tes sorties, parce que ce qui est important pour la commercialisation, c'est la traçabilité, la chaîne de froid, pour que ça soit respecté, pour que la qualité soit maximale. Et aussi, de savoir où tu l'as pris. Ta traçabilité, c'est important. En plus de ta traçabilité, ben un numéro de cueilleur, parce qu'il faut pas se le cacher. Là. Les cueilleurs du Sud qui viennent ici, qui ramassent tout, quand ils retournent en ville, ils sont payés cash, ils ne payent pas d'impôts. Ouais. Ils ne payent pas rien pantoute. Fait que c'est une problématique qu'on essaie de régler parce que tu as beaucoup de cueilleurs ici locaux qui font un superbe travail, mais c'est pas eux qui font les sous. Que ce soit du côté cri ou du côté non autochtone, j'en ai des amis qui viennent cueillir ici là, mais c'est pas eux qui font l'argent. C'est fait qu'on veut vraiment que le cueilleur ait sa juste part, qu'on travaille tout le monde ensemble pour pouvoir préserver la ressource et développer un truc qu'on est vraiment en train d'essayer de faire. C'est un peu comme de l'agriculture, parce que le champignon, il pousse de telle manière, il y a une manière de le préserver. Si on attend 24 heures, ben le champignon dans le sol, qui va être 20-25 grammes, va en peser peut-être 50 le lendemain. Fait que c'est tous ces trucs-là qui ont été développés depuis des années avec tous ces intervenants-là. Puis moi, ben le champignon-là, là, ça fait 21 ans que je le suis. Par plaisir et 17 ans que je travaille avec Chasibi et Wimengi pour développer ce projet de Matsutake-là. Mais tu sais, c'est le bordel à chaque année. Pourquoi? Parce que va chercher, toi, petit blanc, va chercher le champignon dans le nord à telle place, telle place, telle place. Les gens débarquent, ont aucune idée, savent même pas. Puis je te dirais, les pires cueilleurs, c'est les pires cueilleurs, c'est les cueilleurs de morilles de feu qui ont fait le BC.
Oui, absolument.
Parce qu'ils s'attendent à ramasser des tonnes et des tonnes. Ouais. Donc, ils tournent les coins ronds, puis c'est le bordel. Puis pourtant, cette ressource-là demande juste à être cueillie. Mais les gens veulent pas suivre cette formation que je donne de 3 à 5 jours, tout dépendant de. Mais on parle de tout là. On parle du début à la fin, comment le cuisiner, comment oui, le préserver, comment le garder 2 semaines dans ton frigo.
C'est ça. Mais regarde Sylvain, la semaine prochaine, on va parler plus de cette formation là. Là, le temps file rapidement. Mais si les gens ont des questions justement, puis ils voudraient s'adresser à toi, ils peuvent le faire de quelle façon?
De manière la plus simple, www.animalpaquin.info, puis juste une petite recherche avec Animal Paquin, vous allez trouver toutes mes coordonnées. N'hésitez pas, écoutez, ça va me faire plaisir. Moi, c'est une passion, le Matsutake, depuis tellement d'années. Là.
Et voilà, nous, on va rejoindre naturellement Sylvain la semaine prochaine et on va en parler, on va en discuter encore. On va parler Matsutake et naturellement, on va parler formation. Qu'est-ce qu'on pourrait retrouver dans ces formations-là? Donc, soyez des nôtres. Et puis, si vous voulez écouter les chroniques aussi de Sylvain en balado-diffusion à tous les mercredis, faites juste simplement plein air sur Google et vous allez trouver notre site Internet sous l'onglet balado-diffusion. Tous les mercredis, on retrouve Sylvain. Salut Sylvain, tu passes une bonne semaine.
Merci Guy.
Au chalet comme à la maison, verrouille ton arme. En cas de doute sur la façon d'entreposer ou de transporter ton arme, opte toujours pour l'option la plus sécuritaire. En collaboration avec l'Association québécoise de prévention du suicide, la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs rappelle aux propriétaires d'armes à feu qu'une arme bien verrouillée peut éviter des drames.
Tu trouveras tous les règlements présentés de façon visuelle et simple sur sécurité-arme-à-feu.com.
Verrouille ton arme.
Et voilà, on est de retour. On va aller prendre une bonne bière. Et quand on prend une bonne bière, là, pour les habitués, vous savez que c'est avec notre ami Kevin Plante-Germain de la balado L'Âge de bière. Et pour ceux qui se joignent à nous pour la première fois, vous nous entendez quelque part, vous êtes en auto, à la radio, vous nous entendez, vous passez dans un patelin, sachez qu'on est en balado et vous pouvez retrouver cette chronique à tous les mercredis en balado-diffusion chez Simplement Plein Air. Pour nous trouver en commercial Simplement Plein Air, et vous allez nous trouver où, peu importe, faites juste Simplement Plein Air, vous allez nous trouver quelque part, ou L'Âge de bière, c'est pareil, vous allez trouver la balado L'Âge de bière de notre ami Kevin Plante-Germain. Et puis cette semaine, hey Kevin, premièrement, bonjour.
Salut Guy.
Hey, cette semaine, tu veux nous parler de la... Moi, là, je trouve ça drôle, mais on parle de la maringouin ascendante vampire de la microbrasserie du lac Saint-Jean.
Oui.
My gosh! Que c'est... Je pensais que c'est... les maringouins ascendantes vampires venaient de chez... Ben, de l'Abitibi et non du lac Saint-Jean.
Je t'annonce qu'il y en a un petit peu pas mal ici aussi.
Oui, hein?
C'est pas très différent. Dans le fond, c'est une bière de la série Zodiac de la microbrasserie du Lac-Saint-Jean qui est située à Saint-Gédéon.
Ah, OK.
Il y en a plusieurs de cette série-là, dont par exemple, c'était quoi? C'était la Skidoo Ascendant. J'avais le nom là, qui m'avait fait bien rire. C'était dans le même genre. Là.
Uh-huh.
C'était la... non, excuse, Zoiseau Ascendant Bizarre, qui était quand même pas mal bon comme nom.
Uh-huh.
Puis il y en avait une que c'était la Skidoo Ascendant à l'ail. Il y en a fait de même.
Oh boy, OK. Mais ça, là, noms, naturellement, on s'entend pour dire que c'est des bières de saison.
Oui, ben c'est ça, c'est quand même quelque chose qui bouge beaucoup là, chez la Micro du Lac, là, qui change. Ça, c'est la deuxième année consécutive qu'ils la font, celle-là. Dans le fond, c'est une bissure, une ale sûre à la framboise qui va titrer 5,5% d'alcool. Fait que c'est très, très estival.
Ouais.
Si vous la voyez sur les tablettes, vous pouvez facilement la reconnaître. Sur l'étiquette, il y a le dessin d'un maringouin avec un collet de vampire qui est en train de boire dans une espèce de coupe de vin. Puis évidemment, le dessin est comme rouge un peu. Là, donc, comme une espèce de... C'est ça, là, c'est un maringouin vampire.
moi, je me ramasse toujours dans des endroits où ils vendent de la bière de microbrasserie, là. Puis souvent, je vais poser les étiquettes parce que je trouve tellement... c'est un art, hein? C'est vraiment plus qu'un art. C'est vraiment un talent inouï que les personnes... Faut y penser, hein, au point de vue marketing, et parce qu'il faut se démarquer aussi. Mais m'as-tu de dire que l'artiste, la personne qui fait le dessin ou qui l'a imaginé, moi, je leur lève mon chapeau parce que c'est fantastique.
Beaucoup d'œuvres d'art sur les bouteilles et les canettes de bière. Ouais.
Ah, absolument, absolument. Mais cette bière-là, comme tu l'as dit, une bière de saison, une bière là qui ça roule beaucoup, comme tu dis, là-bas. Mais une bière sûre comme ça... qu'est-ce que ça a l'air en bouche, là? Qu'est-ce que ça nous donne, les effluves, là? On débouche ça, là. Moi, je sais pas qu'est-ce que ça a l'air, ça, cette bière-là.
Bien, tout d'abord, on a quelque chose de très rouge dans le verre, là. C'est dû à la framboise. On a des petits reflets dorés. La mousse éphémère, donc quand on a une bière sûre, la mousse, ça disparaît rapidement.
Ouais.
C'est bien voilé. Bonne activité effervescente aussi. Quand on apporte au nez, qu'on prend un petit respire, on sent bien évidemment la framboise. On sent aussi une petite impression de bonbons là, acides, là, comme les framboises Maynard.
Mm-hmm.
Là,
ouais.
Donc, ça fait un peu penser à ça au nez. Donc, en bouche, c'est accueilli avec quand même une faible acidité lactique, là, contrairement à ce qu'on pourrait peut-être s'attendre à quelque chose de super sûr. Mais non, c'est quand même modéré puis c'est quand même raisonnable. Le fruit vient ensuite se faire goûter gentiment, tout en restant très, très doux au niveau du sucre. On a un corps qui est donc sec, puis la framboise goûte vraiment fraîche, puis on a même l'impression de feuilles de framboisier. Tu sais, quand on cueille une framboise directement, là, on a vraiment ce qui ressort, cette impression-là. Donc, on a une effervescence qui vient timidement gratter la langue après ça. Et on a une finale qui n'est pas amère, mais pas du tout. Puis on a des fines notes minérales à la fin, carboniques, là, qui sont rafraîchissantes, somme toute. C'est une gentille petite bière à la framboise qui se différencie des autres bières du même type, surtout par son corps qui est sec, ses arômes qui filent vraiment très naturels. C'est vraiment très honnête comme ale aux framboises. J'ai vraiment bien aimé. Si vous aimez les bières aux fruits, les bières pas trop sucrées, bien sèches, je vous invite à pencher vers celle-là. C'est vraiment idéal pour l'été qu'on a actuellement, qui, je dois le rappeler, est vraiment quand même assez merveilleux jusqu'à maintenant.
Oui, effectivement. c'est ce que je m'en allais dire. C'est une bonne bière de terrasse, là.
Ah, complètement. Rafraîchissement, après-midi, soleil, légèreté aussi. Là, on parle de 5,5. C'est quand même léger.
Oui, acceptable, là.
Puis la framboise, c'est ainsi, là, dans les bières, elle a vraiment la cote, là, honnêtement. Des bières aux framboises, il y en a plus que pas assez, puis c'est difficile de se distinguer dans ce style-là. Puis ici, Micro du Lac, ils ont vraiment été chercher un petit quelque chose de différent des autres. Je lève mon verre à Micro du Lac, que j'aime beaucoup, pour ce merveilleux produit-là.
Ah, et puis ça, c'est une mode, hein? À un moment donné, ils partent sur une chose comme là, tu dis la framboise, là. Ouais. Je sais qu'à un moment donné, ça n'a pas été le bleuet, ça se peut-tu?
Oui, bleuet beaucoup bleuet, dans les dernières années.
Ouais.
Cette année, j'oserais dire que cette année, c'est pas mal l'année de la framboise.
Oui, ah, mais c'est une bonne chose. Moi, c'est dans les petits fruits que j'adore, donc je vais l'essayer. C'est ça, mais malgré que j'ai toujours eu une petite réserve pour les bières sûres, par exemple.
Mais tu ne serais pas vraiment fracassé par celle-là au niveau de l'acidité, c'est léger. J'en ai même été surpris. Là. Moutou, je ne suis pas un grand fan des bières sûres, mais celle-là, là, c'est bien équilibré. C'est pas trop agressant, c'est pas trop attaquant. C'est rafraîchissant. On la boit bien froide, évidemment.
Mm-hmm. Ah oui, non, mais moi, c'est ça. Même des fois, je me surprends. On regarde toujours parce que la majorité des étiquettes, on nous dit que bon, la bière est mieux consommée à tel et tel degré. Et puis, il y a beaucoup de gens qui vont dire oh, on regarde plus ça, puis parce que c'est trop la même chose. Non, ça ne l'est pas.
Non.
Ça ne l'est pas. J'ai découvert ça, moi, il n'y a pas longtemps. Là. Je regardais, puis je me suis aperçu, non, c'est pas la même chose. Et puis, c'est ce qui indique, là, c'est vraiment là que vous allez vraiment chercher le goût de cette bière-là en particulier.
C'est ça, exactement. Il y a des températures pour chaque sucre.
Oui, exact.
Qui va mieux se consommer, qui va, des défauts qui vont peut-être, ben, des défauts. Il y a des choses qui sont cachées par le souvent. Puis il y a des choses qui sont révélées par la chaleur. Donc, c'est un bon, puis c'est une lame un peu à deux tranchants, mais selon le style de bière, selon son pourcentage d'alcool notamment, c'est là qu'on va aller différencier quelle température on va consommer la bière.
Exactement. Tu sais, on est loin de la DAO tablette, là, mais la DAO tablette, c'est vrai qu'elle était meilleure tablette que froide, mais par contre, c'était. Ouais, c'est ça, oh boy.
ça, la tablette, ça, c'est comme la bonne de la batte 50.
Oui. Mais la DAO était meilleure tablette qu'elle était froide, parce que froide, oh boy, c'était un peu bizarre comme goût, je te dirais. Là.
Elle a juste tué une couple de personnes, fait que c'est pour ça qu'elle
C'est pour ça qu'elle est plus lourde. C'est exactement. Hey, écoute, Kevin, le temps file. Parle-nous un peu de la balado, comment ça va?
Ça va très bien, deuxième saison encore. Ceux qui veulent en savoir un peu plus sur la bière de microbrasserie, pour savoir, c'est relatif comme terme, là. On est très très casual, très jasant, très fraternel. On boit de la bière commerciale et artisanale. Trois bières par épisode, on fait ça en chum, on a beaucoup de plaisir, running gag, on lâche notre fou, on parle d'un peu de tout. Vous pouvez nous suivre partout, sur Facebook, Twitter, Instagram. Vous pouvez nous écouter également pas mal aux mêmes places que vous pouvez écouter simplement plein air, chercher l'âge de bière.
Absolument. Et nous, bien, naturellement, on se rejoint la semaine prochaine où on va parler de la jongleuse de la microbrasserie endiablée. Donc là-dessus, bien, comme je le dis chaque semaine, attention, si vous prenez une bière, bien, consommez avec prudence bière et volant. On le sait, ça ne fonctionne pas. On ne le dira jamais assez. On vous le répète, attention, on tient à vous. On aimerait ça que vous soyez là la semaine prochaine pour nous écouter ou pour écouter la balado L'Ange de bière. Donc là-dessus, Kevin, bonne bière, bonne semaine.
Merci beaucoup, Guy, toi aussi.
Simplement plein air, c'est de la balado. Simplement plein air, c'est de la radio. Et maintenant, simplement plein air, c'est de la vidéo. Et oui, profitez-en pour visiter notre canal YouTube Simplement plein air et abonnez-vous. Après tout, Simplement plein air, c'est pour vous.
Et voilà, c'est l'heure de notre portion Rando Rencontre. Salut les passionnés, ici Pascal Auger, journaliste, conférencier, formateur et secouriste certifié pour Québec Compostelle, qui est préparé, formé, inspiré pour marcher au Québec ou encore Compostelle, et instigateur, coordonnateur du Chemin du Québec, 1200 km entre Montréal et le phare de Cap-Gaspé. Notre invité cette semaine, n'oubliez pas, vous pouvez nous suggérer des invités. Notre invité a décidé de marcher entre Montréal et Québec. Au total, ça va y avoir fait à peu près un 600 km parce qu'il fait quelques petits détours à gauche et à droite. C'est correct, pourquoi pas, on se fait plaisir. Il est conseiller municipal de la ville de Montréal depuis une dizaine d'années environ. Il s'appelle Richard Ryan. Et pour lui, de plus en plus, il avait le goût un peu un retour aux sources et puis de vivre, de rencontrer des gens, de partager chez des gens, etc. Et c'est ce qu'il fait. Quand je l'ai rencontré pour faire cette entrevue, il était rendu tout presque à Québec. Il était rendu sur la rive sud, là, dans le secteur de Lévis. Il allait traverser le fleuve. Et puis, terminait donc avec une boucle à l'île d'Orléans. C'est quand même cool, pas pire ça. Une boucle sur l'île d'Orléans, puis ensuite pour revenir à Québec, prendre le train et retourner donc à Montréal. Alors, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, pas mal intéressant. Ce rendez-vous-rencontre, donc, que vous écoutez à la radio en direct, ou encore, vous pouvez écouter en rediffusion la version podcast. Il y a aussi la version YouTube sur la chaîne Québec Compostelle. On échange sur la randonnée, de l'information, préparation sur le matériel, les circuits. Oui, parce qu'on parle du chemin du Québec, 1200 km entre Montréal et le phare de Cap-Gaspé, mais aussi Compostelle en Europe et les autres circuits québécois. D'ailleurs, en tout temps, on est là pour répondre à vos questions. Vous pouvez me rejoindre par Facebook, Messenger, par courriel. Nous suggérer également des invités sur la page Internet québeccompostelle.com. Ben, je dis la page, le site Internet finalement, québeccompostelle.com. Allons-y! Comme on aime d'habitude, on aime ça savoir à qui on parle. Qui est ce Richard Ryan? Je viens vous dire qu'il est conseiller municipal, mais évidemment, il est plus que ça.
Ben écoute, j'ai 53 ans, c'est sûr que ça fait une trentaine d'années que je suis dans le milieu du travail. Ça fait 10 ans que je suis élu municipal. J'ai vraiment mis le reste de côté pour cette nouvelle passion-là qui est arrivée en 2009. Mais avant ça, j'étais beaucoup dans le milieu communautaire, d'aide aux immigrants, le travail autant au niveau de l'employabilité que le jumelage des relations interculturelles des migrants, l'aide à l'intégration. Puis par la suite, la décennie avant d'être élu, j'ai été dans le réseau de la santé, comme organisateur communautaire, mais en CLSC, donc en support à une panoplie d'organismes, support et toutes sortes d'aides techniques qu'on peut donner là, aux organismes communautaires qui en avaient besoin.
Alors lui, il a décidé de faire comme beaucoup d'Européens vont faire, c'est-à-dire mettre la clé dans la porte. Et même sur son Facebook, il avait fait une photo, il avait fait un affichage en train de barrer sa porte et c'était son grand départ. Mais d'où vient cette idée, d'où vient cette folie-là?
Le dernier matin, Pascal, je suis arrivé, à l'auberge où j'étais, il y a un Français qui vient s'asseoir. C'était évidemment lui aussi sa dernière journée. Et là, il me dit, moi, je suis parti de Brest, en Normandie, et j'ai mis la clé dans la porte chez moi, et j'ai marché 2000 km pour me rendre Saint-Jacques-de-Compostelle. Et là, je me suis dit, ouais, pourquoi prendre l'avion pour marcher autant? Et là, je me suis dit, là, toute l'année, ça m'a trotté dans la tête, est-ce que je pourrais partir de chez moi? Qu'est-ce que je peux faire? Et c'est ça que j'ai fait le 5 juillet passé. J'ai mis la clé dans la porte, et je me suis mis à marcher, j'ai traversé le pont Jean-Cartier et j'ai poursuivi ma route jusque-là.
Ben oui, l'inspiration venait de lorsqu'il était à Compostelle, il a rencontré quelqu'un qui avait barré la porte de chez lui en Normandie pour se rendre vers Compostelle. Donc, il a décidé d'appliquer le tout rendu ici. Et une de ses grandes... une des raisons aussi qu'il voulait, c'était de retrouver le côté humain, retrouver la chaleur humaine du Québec également, et de rencontrer les Québécois. Quoi de mieux, hein, que de se promener à 5 km/h pour avoir le temps de parler avec les gens?
Et j'ai retrouvé le fameux chemin du Québec dans la région de Danville. Et ensuite, j'ai poursuivi cette route-là, le chemin du Québec, vers. M'étais donné comme défi d'aller coucher chez là, de demander l'hébergement, et pour ce faire. Voilà, c'était un double défi pour moi, c'était la question de lier le social, le côté humain. C'est important de rencontrer des gens. J'aurais pu dormir dans une gîte, c'est sûr que c'est plus économique de dormir chez l'habitant. J'aurais pu dormir dans une gîte, mais le côté social et humain, j'ai trop passé à côté de ça dans mes multiples voyages à travers l'Amérique latine ou à travers l'Europe et tout ça. Je me suis dit non, je voyage au Québec, je vais aller connaître les Québécois, je vais aller les rencontrer chez eux.
C'est vrai que Compostelle, c'est unique, c'est légendaire, ça vaut la peine d'être fait au moins une fois dans sa vie, mais en même temps, on a tellement de beaux coins, de belles histoires, patrimoine, culture, etc. chez nous. C'est un peu ça d'ailleurs que Richard voulait relever comme défi.
Mais une autre raison qui m'a vraiment motivé à marcher, c'est la question de l'environnement. Je disais, pourquoi prendre l'avion pour aller marcher. La question de l'environnement m'interpelle de plus en plus. Et je dirais que c'était un peu la trame de fond des discussions que j'ai eues. C'est sûr, il y a différents degrés, il y a différents aspects qui ont été touchés, mais la question de l'environnement touche de plus en plus les gens. Puis peu importe le milieu dans lequel ils sont, je m'aperçois qu'il y a quelque chose là qui... les gens se posent beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Et pour moi, de marcher... cette année, de ne pas prendre la voiture, de partir de chez moi, même pas prendre le métro pour me rendre à mon point de départ, mais c'était, il y avait comme une espèce de statement. Mm-hmm. C'est beau, on peut faire toutes sortes de gestes au quotidien. On essaie de tous de faire des efforts. C'est pas moi qui vais changer les choses en allant marcher 500 km. Mais au moins, il y avait quelque chose de... La marche, Pascal, c'est avant la voiture, c'est avant le vélo, c'est avant la roue. On marchait avant la roue soit inventée. Alors, c'est comme... Les gens me disent, c'est à combien de kilomètres de Montréal, à un moment donné, ça 3 jours de marche. J'avais l'impression de retourner à l'époque de nos ancêtres. C'est comme ça qu'ils calculaient les distances. 3 jours de marche, 4 jours de marche.
Effectivement. Quand vous allez avoir goûté à la rando, vous allez vous mettre à marcher des centaines de kilomètres, et qui sait peut-être des milliers de kilomètres un jour. À un moment donné, quand vous allez reprendre la voiture après, vous allez voir, 100 kilomètres qui vous restent, bien, vous allez calculer, ça serait 4 ou 5 jours de marche. C'est drôle, c'est la folie, c'est un peu ça, quand on se met à marcher beaucoup. Ben voilà pour notre invité cette semaine. Ça vous tente d'en savoir davantage sur la rando, commencer à vous préparer peut-être pour un beau voyage. On fait pas ça du jour au lendemain. Hein. J'en ai vu des gens là partir sur un coup de tête et on s'attire un petit peu des problèmes dans ce temps-là. Richard l'avoue lui-même d'ailleurs qu'il a peut-être manqué un peu de préparation. Il a eu quelques petites difficultés, il a pris un peu un repos à un moment donné et il a ajouté des bâtons à sa rando, puis ça lui a fait énormément de bien. Donc on vous donne plein de trucs comme ça sur le matériel, sur le bon poids, comment se préparer, comment ça marche finalement la rando. On a des randos séjour où on vous offre donc une semaine pour vous préparer. Sinon, il y a même des randos d'un jour qu'on vous offre. Il y a aussi des week-ends de formation rando où vraiment on prend le temps de tout vous préparer pendant cette fin de semaine-là. Il y a aussi des formations qui se donnent en ligne que vous pourrez suivre, des ateliers en ligne donc pour bien pouvoir vous préparer. Donc plein de choses. Venez faire un tour sur le site internet québeccompostelle.com. Allez voir le calendrier. Vous verrez donc ce qui s'en vient dans les prochaines semaines. On part justement en rando pour le mois d'août pendant une semaine, mois de septembre également. Et puis quand vous êtes membre, c'est gratuit d'être membre de Québec Compostelle, bien vous avez des exclusivités. Comme pour le mois de septembre, vous pourrez vous inscrire avant tout le monde. C'est très, très, très en demande le mois de septembre. Donc, trouvez votre atelier, trouvez votre chemin. Voyez le calendrier sur québeccompostelle.com. On est également sur Facebook, Instagram et YouTube. Québec Compostelle, ça marche.
Envie de vous égarer?
Simplement plein air.
Envie de changer d'air?
Simplement plein air.
Avez-vous envie de grands espaces?
Simplement plein air.
www.simplementplein-air-simplyoutdoors.ca
Un commercial simplement plein air.
Et voilà, on va aller cueillir des champignons. Et pour ce faire, bien naturellement, vous savez, chaque semaine, on a avec nous un conférencier, un auteur, un éditeur. En la personne de M. Roger Larivière. Bonjour, M. Larivière.
Oui, bonjour.
J'ai eu une petite question la semaine dernière. J'ai trouvé un champignon que je n'étais pas trop certain c'était quoi. J'ai naturellement fait appel à votre génie, à votre expérience. Et puis, cette semaine, on va parler d'un champignon qui pousse un peu partout au Québec, j'ai comme l'impression. Et c'est le fameux lactaire saumon. Un beau champignon. Mais je vous dirais que j'étais un petit peu, je savais plus trop m'orienter là.
C'est un champignon qui est en fait, d'abord, faut dire que c'est un champignon, oui, qui pousse à ce temps-ci de l'année. Il pousse un peu partout au Québec, alors c'est la raison pour laquelle vous l'avez trouvé dans votre coin. C'est la raison pour laquelle il pousse également en Abitibi. Puis je vous dirais que dernièrement, en fin de semaine, samedi, je dirigeais un atelier sur les champignons, puis on en a trouvé plusieurs. Et il est facile à identifier pour deux raisons. La première, quand on regarde le dessous du chapeau, il y a des lames. Elles sont relativement grosses et fourchues, mais la caractéristique la plus importante, c'est quand on coupe ces lames-là avec le couteau, on voit apparaître une sève qui est de couleur orange-carotte qui sort là des belles gouttes ou un trait, et ça, on peut pas faire autrement que de dire que c'est un lactaire, parce que tous les champignons à lame qui donnent du lait, ben évidemment, ça, c'est dans le groupe, le sous-groupe des lactaires.
C'est assez spécial, je vous dirais, parce que c'est un champignon à lame aussi, hein?
Oui, c'est ça. C'est un champignon à lame. Très intéressant parce que on sait qu'il y a d'autres grandes familles de champignons. On en a déjà parlé ici à vos chroniques. Mais il y a des champignons avec des dents ou des aiguillons. Il y a des champignons avec une espèce de d'éponge en dessous qu'on appelle les bolets. Mais ceux-là, vraiment, c'est très caractéristique avec des lames qui ont des formes variées, qui ont des façons d'arriver au pied du champignon aussi assez différentes parfois. Et c'est la plus grande famille de champignons, puis c'est celle-là aussi qui comprend les champignons qu'on retrouve au Québec, sont des champignons mortels. Ouais. Fait que, il faut être très, très prudent avec avec ces champignons à lame.
Oui, et puis je dirais, donc, si on s'aventure et on pense que c'est du lactaire, est-ce qu'il y aurait un cousin ou un petit frère jumeau qui pourrait être dangereux pour notre santé, de la même couleur, je parle, là, de la même chose?
Avec le lait couleur carotte, écoutez, moi, je n'en connais pas qui ont, puis je pense pas qu'il en existe non plus. Il y a un cousin, par contre, qui s'appelle le lactaire des épinettes, qui pousse souvent dans des endroits similaires. La différence entre le lactaire saumon, qui s'appelle aussi le lactaire saumonné pour certains, c'est que quand on coupe avec notre couteau de récolte ou quand on le casse, ben le lactaire des épinettes, le lait, il vire au vert.
Oh,
il vernit. Okay. Et c'est pour ça que le lactaire saumon, ben il produit un lait. Et ce lait-là, il y a un terme en mycologie qu'on utilise qui s'appelle à lait immuable ou à couleur du lait immuable. Ça veut dire qu'il ne change pas de couleur. Fait que si ça verdit, le lait, c'est le lactaire des épinettes, mais il est tout aussi comestible. Puis s'il reste orangé, ça va être le fameux lactaire saumon.
Donc, de cette couleur-là et tout, il n'y a pas de danger là, d'arriver à un champignon mortel ou toxique ou...
Non.
De cette...
Non. Pas du tout. Par contre, il faut être très prudent quand on... Il y a une autre caractéristique qu'on doit dire aussi, puis je pense que c'est là-dessus qu'il faut être, assez curieux. On prend toujours le couteau, on coupe le pied, et le pied est absolument creux.
Ouais.
Et c'est ça. Ça fait que quand on a le lait orangé, quand on a le pied creux, puis quand on a un lait qui change pas de couleur, mais même s'il changeait de couleur, c'est pas grave. C'est ce champignon-là. Par contre, c'est un champignon qui est souvent parasité. Et ceux qui aiment pas les larves, les bébites en bon québécois, ben, il est souvent parasité, mais on a quand même le choix, parce qu'il y en a tellement habituellement dans une talle de lactaire qu'on peut prendre ceux qui sont les plus jeunes, puis on fait une assiette. C'est un champignon qui est un bon comestible, c'est pas un très bon comestible, mais il est meilleur que certains champignons qu'on dit comestibles, point à la ligne.
Oui.
Parce que c'est ça. Des fois, ça fait juste ajouter du volume dans l'assiette, là, mais lui, il donne... je ne sais pas c'est quoi vos impressions de... En tout cas, ce que vous avez goûté quand vous l'avez mangé, mais c'est quand même un champignon qui est bon.
Oui, il est bon. Il n'a pas nécessairement un goût épouvantable, là, comme vous le dites. Là, c'est... C'est pas ça, mais c'est quand même un champignon, moi, que en m'en apercevant, je le rajouterais facilement à des sauces une fois déshydraté. Je pense que c'est un champignon qui se déshydraterait très bien ou se congèlerait là, une fois là, peut-être le dégorgé de son eau. Là. Mais on sait qu'il perd beaucoup de volume, hein, parce qu'un champignon contient beaucoup de volume et c'est pas des champignons énormes. Donc, il perd du volume, malgré qu'ils peuvent devenir quand même assez. On a vu des spécimens qui étaient attaqués. Ce que j'ai remarqué, c'est que le contour de certains a commencé à avoir du brun. Là, il commençait à se décailler, oui. Donc ça, on ne touche pas à ça. Là. Comme on a déjà parlé, il commence à se décailler. Là. Pas à se décailler, mais à perdre un peu là, de ses couleurs. Donc, on voyait du brun. J'imagine que c'est une forme de pourriture. Donc, on le laisse là.
C'est ça. Oui, absolument. Vous avez tout à fait raison. Il faut le mentionner aussi. Puis on dit tout le temps aux gens qui cueillent des champignons, ben écoutez, mangez des champignons les plus frais possibles. Idéalement, on devrait manger des champignons en bouton parce que là, ils sont vraiment jeunes et fermes. Mais quand on arrive dans une table de champignons puis qu'ils sont déjà avec un chapeau complètement ouvert, puis que la marge est commencé à changer de couleur, ça brunit. Ouais. Ben, ce qu'on fait habituellement, on va prendre notre couteau puis on va, en bon québécois encore une fois, rechéper le champignon. Ça fait qu'on coupe la marge puis on garde les parties qui sont plus fraîches en enlevant le pied parce qu'encore une fois le pied est creux et même si le pied est comestible parce qu'il est il est pas dur. Là.
Non, c'est
vraiment
un
pas comme un pied de volet.
Non.
Souvent, les larves vont se rendre même jusqu'au début du chapeau par le pied. Fait qu'on garde ce qui est mangeable, puis on se contente. On sait très bien que les champignons sauvages, il faut en enlever souvent une très bonne partie pour garder ce qu'on peut se mettre dans la bouche.
Absolument.
Ah oui. Il y a des grosses pertes.
Oui, et puis le temps file rapidement, M. Larivière. On sait que naturellement, oui. Vous êtes éditeur, auteur, vous avez une maison d'édition. Si on veut plus d'informations sur les champignons, on le ferait de quelle façon ou sur naturellement vos sorties?
Oui, écoutez, mon site web donne des informations sur mes différents ouvrages. Donne évidemment des informations sur mes sorties, mais cette année, elles ont été complètement chamboulées à cause de la COVID-19. Mais alors, vous allez sur naturat.ca, naturat.ca. Je suis sur Facebook. Ceux qui ont des questions, il me fait toujours plaisir d'y répondre. Et je donne encore quelques ateliers jusqu'au 13 septembre. Ici en Abitibi voilà, cette année c'est à peu près ça, la saison a été écourtée, mais l'an prochain on pense qu'on va se reprendre avec beaucoup plus de sorties de terrain et ça devrait être beaucoup plus agréable en souhaitant évidemment de la pluie pour les champignons et
absolument.
Moi je n'ai aucune espèce de restriction. Quand un animateur d'émission de radio ou de télévision annonce de la pluie, les champignons en veulent
la pluie.
Et nos lacs en veulent, les poissons en veulent, alors allez-y la pluie.
Ben, écoutez, nous, ben, naturellement, on va souhaiter de la pluie, comme vous dites, et puis on se retrouve la semaine prochaine. On va continuer, je crois, sur le lac Terre, parce que finalement, il faut savoir où il pousse et tout. Donc, bonne semaine, et puis on vous rejoint la semaine prochaine, M. Larivière.
Oui, à bientôt.
Simplement plein air, c'est de la balado. Simplement plein air, c'est de la radio. Et maintenant, simplement plein air, c'est de la vidéo. Et oui, profitez-en pour visiter notre canal YouTube Simplement plein air et abonnez-vous. Après tout, Simplement plein air, c'est pour vous. Les balado-diffusions Simplement plein air sont rendues possibles grâce à la participation des partenaires suivants.
Les leaders pour les produits de saline, urine, leurre et autres accessoires, les excellents produits Buck Hunter. Venez visiter notre tout nouveau site au www.buck-hunter.ca. Vous verrez les résultats à utiliser nos produits.
Tout le monde aime le camping. Le réveil matin remplacé par le chant des oiseaux. Les après-midi au bout du quai, les pieds dans l'eau. Les soirées partagées autour du feu. Les maringouins, le poêle au propane qui démarre pas, la tente qui fuit, le matelas qui dégonfle, l'eau trop froide. OK, on peut rien faire pour l'eau trop froide. Mais pour le reste, il y a Pro Nature, Rouyn-Noranda.
Que ce soit pour vos animaux de compagnie ou vos animaux de ferme, la compétence porte un nom. Monsieur Bouffe, 25 Avenue Chaudière à Rouyn-Noranda, au 819-797-2564, point à la ligne.
Action Kia de Rouyn-Noranda pour un choix de véhicules neufs Kia adaptés à vos besoins, mais aussi un véhicule d'occasion fiable, sécuritaire et certifié. Venez rencontrer notre équipe qui sera vous conseiller le bon véhicule, comme le Kia Sorento, offert avec traction avant ou intégrale. C'est la qualité à un prix incomparable pour ceux qui aiment en avoir plus pour leur argent. De plus, notre expert en crédit vous accompagnera pour faire la meilleure transaction possible. Action Kia, meilleure garantie et meilleur service au meilleur prix.
On s'imagine pas qu'il y a autant de familles qui mangent pas à leur faim au Québec. Cette année, j'ai décidé de donner de la viande de gibier pour venir en aide à des familles de ma région. C'est pas compliqué. Je dis à mon boucher la quantité que je veux donner et un organisme passe pour aller distribuer la viande aux familles dans le besoin. Chasseurs, soyez donc généreux.
C'est ainsi que se termine une autre bonne balado de Simplement plein air. Mais ne vous en faites pas, nous serons de retour tous les lundis, mercredis et vendredis pour le plaisir de vos oreilles. Car après tout, les balados diffusion Simplement plein air, c'est une passion.